comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques mois, formé entre autres, UNICEF appelle au cessez-le-feu pour sauver les bébés à Gaza. Dispute Park, Tanjung Pinang accueille des dizaines de premiers touristes de Singapour. PHR produit 58 millions de barils de pétrole en 2024. BNPT envisage de construire un centre national de préparation à Jakarta. Le ministère de l'Industrie a déclaré que la majorité des diplômés professionnels sont absorbés par l'industrie. Vice-ministre du Tourisme suggère que la province des îles Riau augmente son attraction touristique. ASF exhorte l'ASEAN à diriger la lutte contre le VIH-SIDA en Asie-Pacifique. Bonjour, je te revoici, le nouvel en complet. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a de nouveau appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour éviter que davantage de bébés ne meurent de froid au milieu du génocide israélien qui dure depuis plus d'un an et qui a tué des milliers d'enfants palestiniens. Dans un reportage d'Antara de l'IRNA OANA mercredi 1er janvier sur la plateforme X mardi 31 décembre, l'UNICEF a annoncé que 7 bébés étaient morts à cause du froid dans la bande de Gaza au cours des derniers jours. L'agence a déclaré que même si elle avait envoyé des vêtements d'hiver et des couvertures aux familles palestiniennes, leurs besoins étaient immense. Cela est dû au fait que la plupart des résidents déplacés de Gaza n'ont pas encore d'abri convenable ni d'autres besoins de base pendant le froid extrême. L'appel de l'UNICEF intervient alors qu'un certain nombre de zones de Gaza ont été touchées par des inondations ces derniers jours, ajoutant à la misère de ceux qui vivent déjà dans des conditions inhumaines. Plusieurs rapports indiquent que les inondations ont submergé des dizaines de tentes de réfugiés dans les villes de Deir al-Balah, Al-Mawasi et Khan Yunis. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies, environ 473 millions d'enfants vivent dans des zones de guerre à travers le monde, y compris à Gaza. Ce chiffre équivaut à un enfant sur 6 dans le monde. Le ministère de la Culture et du Tourisme de la ville de Tanjung Pinang, province des îles Riau, a salué l'arrivée de dizaines de touristes étrangers en provenance de Singapour au port international de Sri Bintanpura mercredi 1er janvier 2025. Les touristes singapouriens qui arrivent à l'entrée du port sont accueillis avec des traditions typiquement malaises sous la forme de spectacles de pancasilat accompagnés de musique traditionnelle, de distribution de bouquets de fleurs et d'installations de tanjak ou couvre-chef traditionnel par le maire par intérim de Tanjung Pinang, Andri Rizal, le chef de l'Office de la Culture et du Tourisme de la ville de Tanjung Pinang, Nazri, J'espère que l'arrivée de touristes étrangers à Tanjung Pinang au début de 2025 sera un élan pour augmenter les visites touristiques étrangères au centre de la capitale de la province des Îles Riau. Nasri a déclaré qu'entre janvier et novembre 2024, le nombre de visites touristiques étrangères à Tanjung Pinang a atteint 49 495 personnes sur l'objectif total de 100 000 visites cette année. Selon Nasri, son parti tente d'augmenter les agendas touristiques en 2025 afin d'augmenter le nombre de visites touristiques étrangères jusqu'à la fin de l'année. Pertamina Hulu Rokan SAPHR tout au long de 2024 a produit 58 millions de barils de pétrole et à la totalité a été distribuée aux raffineries nationales de Pertamina. André Udenarco, vice-président exécutif des affaires en amont du PHRSA, cité par Antarab Kanbaruriao mercredi 1er janvier, a déclaré que son parti continue de s'efforcer d'augmenter la production en mettant en œuvre les meilleures pratiques et performances et en utilisant les dernières technologies dans les opérations. Il a déclaré qu'en tant qu'entrepreneur de coopération KKS, Hulu Migas opère dans cet district et ville de la province de Riau avec une zone opérationnelle du Rokan Weka de 6200 km². Pertamina Hulu Rokan SAPHR déploie divers efforts pour maintenir la production grâce à diverses innovations et technologies visant à augmenter la production des puits de pétrole du Rokan WK. Cette activité a été réalisée pour soutenir les efforts du gouvernement, comme l'espérait le président Prabowo bientôt, pour que l'Indonésie soit en mesure de mettre en œuvre l'autosuffisance énergétique. L'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, BNPT, a déclaré qu'elle envisageait de construire un centre national de préparation dans la région de Jakarta. Le chef du bureau général du BNPT, le chef de l'équipe technique pour le développement du centre national de préparation jeune maréchal de l'armée nationale indonésienne Fanfan Infansyah, a déclaré que l'existence du centre national de préparation jouera un rôle stratégique dans le renforcement de la préparation nationale et l'augmentation de la résilience nationale. C'est ce qu'a déclaré Fanfan dans une déclaration écrite à Jakarta mercredi. Il a expliqué que la construction du bâtiment, qui devrait commencer en 2025 dans la région ouest de Jakarta, ne fait pas seulement partie du renforcement de la préparation nationale, mais fait également partie des efforts du BNPT pour devenir un centre de coordination pour les personnes revenant de réadaptation ou rapatriées. À l'avenir, il a ajouté, cette zone deviendra également un centre de service d'évaluation pour la coordination des agences chargées de l'application des lois, les activités de lutte contre la radicalisation et le rétablissement des victimes d'actes criminels de terrorisme. Le ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie, Kemenperin, a déclaré que les diplômés professionnels sous les auspices du ministère de l'Industrie, composé de 11 écoles polytechniques, de 2 académies communautaires et de 9 écoles professionnelles ou lycées professionnels répartis dans toute l'Indonésie, sont principalement absorbés par le secteur industriel. Le chef de l'Agence de développement des ressources humaines industrielles, BPSDMI, Mas Rohan, dans un communiqué à Jakarta jeudi 2 janvier, a déclaré que cela se voit dans les diplômés professionnels sous les auspices du ministère de l'Industrie en 2024, dont 73,8% ont été absorbés par l'industrie. Par conséquent, l'intérêt du public à s'inscrire dans les écoles et campus du ministère de l'Industrie est assez élevé. Selon Mas Rohan, son parti a noté que dans le cadre de la route d'admission professionnel industriel, Jarvis, 2024, le nombre total de candidats a atteint 60 179 personnes, avec une capacité d'acceptation de 4121 nouveaux étudiants. Il a souligné que le haut niveau d'intérêt public ne peut être séparé de la réputation des unités éducatives du ministère de l'Industrie, qui obtiennent souvent des réalisations nationales et internationales. La vice-ministre du Tourisme, Nilou Pouspa, a conseillé aux gouvernements locaux et aux entreprises touristiques de la province des îles Riau d'augmenter l'attractivité des attractions touristique afin que les touristes puissent rester plus longtemps dans la région. Comme cité dans le communiqué de presse du ministère de Jakarta jeudi 2 janvier, Nilou Pouspa a déclaré que les îles Riau occupent une position stratégique pour soutenir les efforts visant à augmenter les visites touristiques étrangères en Indonésie. La province, dont le territoire borde Singapour et la Malaisie, et l'une des trois portes d'entrée, le plus grand afflux de touristes étrangers en Indonésie comprend Bali et Jakarta. La députée Nilou Pouspa a déclaré que les îles Riau possèdent déjà une variété d'attractions touristiques, notamment le tourisme naturel, le tourisme culturel et le tourisme sportif. L'existence de ces diverses attractions touristiques devrait inciter les gouvernements locaux et les entreprises touristiques à proposer des expériences touristiques durables et de qualité. Elle a souligné la nécessité d'accroître l'attractivité des attractions touristiques pour que les touristes restent plus longtemps dans les destinations touristiques. AIDS Healthcare Foundation, AHF, le plus grand prestataire de soins de santé à but non lucratif au monde pour le FIH ou SIDA, appelle l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est asiane à diriger les efforts visant à mettre fin au SIDA qui menace la santé des communautés de la région Asie-Pacifique. Grâce à son annonce officielle, comme l'a rapporté Antara jeudi 2 janvier, chef du bureau Asie de la HF, le docteur Chim Sarat s'est dit fier de travailler avec la majorité des pays de l'ASEAN et des organisations de la société civile OSC de la région. Lors de la récente réunion du Conseil de coordination du programme de l'ONU-SIDA, le ministre Leng Moli, président de l'autorité nationale cambodgienne de lutte contre le SIDA, a réitéré l'engagement de l'ASEAN à renforcer la réponse communautaire au VIH-SIDA. Sarat exhorte l'ASEAN et tous ses pays membres à accroître la coopération et à construire des mécanismes solides pour développer un plan d'éradication du SIDA dans l'ASEAN, avec la participation active des OSC, par exemple la HF. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Thank you. Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre « Indonésie vers l'autosuffisance alimentaire ». 2025 est une période cruciale pour la mise en œuvre de la politique alimentaire indonésienne. Ceci est crucial car le gouvernement indonésien a annoncé qu'en 2025, il n'y aura plus d'importation dans certains nombres de produits de base, à savoir le riz, le maïs, le sucre et le sel. Le ministre coordinateur de l'alimentation, Zulkifli Hasan, a exprimé la détermination du gouvernement lors de sa présentation devant Dani à Jakarta la semaine dernière. Ces quatre produits ont une valeur stratégique nationale et sont souvent incapables jusqu'à présent d'être remplis par la production nationale. Par exemple, le riz et le maïs. Ces deux produits agricoles jouent un rôle important dans l'alimentation des humains et du bétail. Les Indonésiens utilisent le riz comme aliment de base, tandis que le bétail dépend du maïs comme ingrédient alimentaire de base. En 2024, les importations indonésiennes de riz atteindront 3,6 millions de tonnes par an. Ce chiffre augmenté par rapport à la conception initiale de seulement 2 millions de tonnes. La plupart viennent du Vietnam, du Myanmar et de Thaïlande. Pendant ce temps, les importations de maïs en 2024 atteindront plus de 305 millions de roupias, une valeur très significative. Selon la directrice par intérim du BPS, Analia Adininga, la majorité des importations de maïs proviennent d'Argentine, du Brésil, des États-Unis et du Pakistan. Selon le ministre Zulkifli Hasan, la détermination de rendre l'Indonésie autosuffisante en matière alimentaire a été soigneusement étudiée, y compris en tenant compte de la tendance de la production nationale de riz qui continue d'augmenter. En dehors de cela, le gouvernement prévoit également un certain nombre de mesures d'incitation telles que la fixation du prix de base de céréales à 6500 rupiah par kilogramme et du prix de base du maïs à 5500 rupiah par kilogramme. Le président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, est convaincu que l'Indonésie est capable de réaliser la souveraineté alimentaire. Si le gouvernement indonésien parvient à atteindre l'autosuffisance alimentaire, cela constituera une preuve et un historique important de la capacité de l'Indonésie à réaliser la souveraineté alimentaire, qui est l'un des 8 programmes d'asta cita du président. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 2 janvier 1959. Luna Ang est lancée. Luna Ang est le premier vaisseau spatial à atteindre la zone autour de la Lune, première mission du programme Luna de l'Union soviétique. Cette sonde devait toucher la Lune, mais elle a échoué et est devenue le premier objet artificiel par l'homme à planer en orbite autour du Soleil. Luna Ang a plusieurs objectifs, à savoir mesurer la température et la pression à l'intérieur du véhicule lors de son lancement dans l'espace, ainsi qu'étudier les composants gazeux de la matière interplanétaire et le rayonnement des cellules solaires. En dehors de cela, ce lancement vise également à étudier les particules des météores dans l'espace, à étudier la répartition des noyaux lourds dans le rayonnement cosmique primaire et à étudier d'autres propriétés de rayons cosmiques. Passons à l'événement sur l'explosion à la mine de Sago. Le 2 janvier 2006, une explosion s'est produite à la mine Sago en Virginie occidentale aux États-Unis. Cette explosion a tué 12 des 13 mineurs de charbon. L'explosion s'est produite lorsque deux groupes de mineurs sont entrés dans la mine. L'effondrement de la mine a piégé le premier groupe de 13 personnes et le groupe derrière eux s'est vite rendu compte que l'air était trop contaminé par le monoxyde de carbone pour qu'il puisse tenter de les sauver. Après l'explosion, le propriétaire de la mine International Coal Group a suspendu ses opérations à la mine Sago en mars. Le président américain George Bush a également signé une loi exigeant des amendes plus élevées en cas de violation de la sécurité dans les mines de charbon. Finissons l'histoire du jour avec l'événement sur la journée mondiale de l'introverti. La journée mondiale des introvertis est commémorée chaque janvier. La journée mondiale des introvertis a été initiée par une psychologue allemande, Felicitas Heine, en 2011. Le 20 septembre 2011, à travers son blog, Heine a déclaré qu'il était temps de sensibiliser les gens du monde entier à l'appréciation des introvertis. Les introvertis subissent diverses discriminations en raison de leur nature fermée et de leur faible appréciation par le grand public. Elle a proposé également la journée mondiale des introvertis tous les 2 janvier parce que cela marque la fin de la longue saison des vacances. Les introvertis peuvent donc faire une pause loin de la foule. C'est le temps, c'est l'histoire de aujourd'hui pour ce soir.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est Zem Langten pour la Vix 20. Voici donc Mon Indonésie, dont le titre est « Le gouvernement prépare les forêts de ses réserves à la sécurité alimentaire et énergétique ». Le ministre des Forêts, Raja Juli Anthony, a révélé les grands projets du gouvernement visant à utiliser les terres forestières des réserves comme source de sécurité alimentaire, énergétique et hydrique. Après une réunion limitée au complexe du palais présidentiel à Jakarta, lundi, il a expliqué que ce nouveau concept apporterait un soutien direct au programme du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales. Le ministre Raja Juli a déclaré que le gouvernement avait identifié 20 millions d'hectares de forêt qui pourraient être utilisés pour la nature, l'énergie et la réserve d'eau. Lors d'une discussion en format avec le président Prabowo Subianto et le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyutonggono, le ministre des Forêts a déclaré que l'un des principaux objectifs était la culture du riz gogo, à savoir du riz pouvant pousser sur la terre. Il estime qu'il existe un potentiel d'environ 1,1 million d'hectares de terre pouvant produire jusqu'à 3,5 millions de tonnes de riz par an. Ce montant équivaut aux importations totales de riz de l'Indonésie en 2023. En dehors de cela, le gouvernement prévoit également de planter les palmiers à sucre comme source de bioéthanol. Concernant le projet de plantation de palmiers à sucre, le ministre des Forêts, Raja Juli, a expliqué que le potentiel d'un hectare de palmiers à sucre est capable de produire environ 24 000 kilolitres de bioéthanol, soit environ 26 millions de kilolitres de carburant. Le ministre des Forêts, Raja Juli Anthony, a déclaré que le concept d'utilisation des forêts de réserve soutiendrait la sécurité alimentaire nationale en élargissant les plantations alimentaires au niveau des villages. Selon lui, bien que la tâche principale de l'autosuffisance alimentaire énergétique incombe au ministère de l'Agriculture et au ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, le ministère des Forêts agira en tant que fournisseur de terrain pour ce programme. C'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Jangan kau tutup pintu
Chers auditeurs, c'était la 12e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute.
Ces résultats, commencer à travailler au début d'année nécessite un nouvel enthousiasme. Ce nouvel esprit peut être créé avec des activités de vacances passionnantes au début de l'année. Passez vos vacances de début d'année en Indonésie afin de reprendre vos activités. Vous pouvez choisir les vacances au plus près de la nature et loin de l'agitation du centre-ville. Vous pouvez passer des vacances en pleine nature à Labuan Bajo dans l'est de Nusa Tenggara. Cette ville de pêcheurs est entourée de 80 petites îles et constitue un point focal pour les touristes souhaitant explorer les vues et les plages incroyables. Pendant votre séjour, vous pouvez également louer un bateau ou un bateau rapide pour traverser la mer depuis Labuan Bajo jusqu'à des attractions touristiques célèbres telles que le Padar et la plage rouge. Non seulement vous serez enchanté par l'eau de mer bleu clair et les îles vertes pendant le voyage, mais vous le serez également encore plus lorsque vous traverserez le parc national de Komodo et rencontrerez les dragons de Komodo hautement protégés. Non moins excitant, il faut essayer de nager avec les raies manta, les plus grands raies du monde à Manta Point. Chers auditeurs, vous pouvez également passer des vacances au plus près de la nature sur le plateau de Dieng à Java Central. Vous serez émerveillé par le charme du Mont Sumbing depuis le sommet de Prau ou profiterez de la beauté du village touristique de Dieng Kulon. Le matin, il ne faut pas manquer de chercher le lever du soleil au pic Cikunir. Vous pouvez également séjourner chez un résident local et profiter de l'air frais et des activités des résidents locaux. Pendant son séjour ici, n'oubliez pas d'acheter des souvenirs typiques de Dieng tels que du peruaceng, du carica, des noix de Dieng et de la viande de bœuf séchée. Ces résultats, si au début de cette année vous êtes à Jakarta, les mille îles sont le bon choix pour les vacances au contact de la nature. Cet archipel est constitué de petites îles situées à environ 2 à 4 heures de Jakarta. Vous serez émerveillé par l'eau de mer turquoise très claire. Plusieurs îles sont également connues pour leurs belles plages et leurs écosystèmes sous-marins. Par exemple, le Tidung, le Pramuka et le Macan. Il existe plusieurs des meilleurs sites de plongée en apnée aux mille îles. Pour accéder à ces îles, il vous suffit de traverser un bateau traditionnel depuis le port de Kali Adem à Muara Angke ou bateau rapide depuis le port de Marina à Ancol. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le phénomène astronomique 2025. Pour ceux d'entre vous qui aiment l'astronomie, il y a une nouvelle passionnante pour vous, parce que cette année, divers phénomènes astronomiques étonnants décoreront le ciel tout au long de l'année 2025. En décembre 2024, l'Agence nationale de recherche et d'innovation, ou BRIN, a publié des informations sur les prévisions de phénomènes astronomiques. Cela se produira tout au long de l'année 2025. Selon l'Agence nationale de recherche et d'innovation, il y aura un défilé de planètes, une éclipse lunaire totale, des pluies de météores et des occultations lumineuses de planètes et étoiles. L'Agence nationale de recherche et d'innovation a déclaré qu'en 2025, il y aura un phénomène, un défilé de planètes. Il s'agit d'un phénomène où les cinq planètes les plus proches de la Terre peuvent être observées simultanément en une nuit. Les cinq planètes sont Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Cependant, selon l'Agence nationale de recherche et d'innovation, seules quatre planètes seront visibles à l'œil nu. Les quatre planètes sont Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. En outre, cette agence prédit qu'il y aura un certain nombre de phénomènes de pluie de météores en 2025. Les pluies de météores sont causées par la poussière laissée par les comètes et astéroïdes sur l'orbite terrestre. Ainsi, si la Terre dépasse l'endroit où se trouvait la poussière, les pluies de météores se produiront à la même période chaque année. Il existe plusieurs types de pluies de météores qui se produiront en 2025. Entre autres, les quadrantines, les lyrites, les zeta aquarites, les perseides et les autres. BRIN a également déclaré qu'il y aura également un phénomène d'éclipse totale de lune. Ce phénomène est un événement qui se produit lorsque la lumière du soleil est bloquée par la Terre avant qu'elle n'atteigne pas entièrement la lune. Cette éclipse ne se produit que pendant la phase de pleine lune. Cette éclipse se produira le 7 septembre 2025 à partir 22h30. Jusqu'au 8 septembre à 3h30. Ce phénomène sera observé dans toute l'Indonésie, tant que les conditions météorologiques seront claires. En dehors de cela, un autre phénomène intéressant est l'occultation, à savoir la couverture d'une planète ou d'une étoile brillante par la Lune. L'une des occultations pouvant être observées depuis l'Indonésie et l'occultation de l'étoile Beta Tauri le 11 octobre 2025. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Masih adakah waktu tersisa kasih temani diriku di malam gelap ini? Biarkanlah, jangan dengar mereka, salahkan dirimu. Mencintaiku, manisnya kata cinta darimu, sinari hati ini kekasih, sampai kapan kita begini? Janganlah bersedih, usahlah menangis, berikanlah aku satu senyum saja.
C'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson de Reza Tamivia. Sur le tard, avant de devenir chanteuse professionnelle, Reza était chanteuse de fond pour le groupe Dewa 19. La voix de Reza avait sa propre couleur, ce qui a poussé Ahmad Dhani, membre du groupe Dewa 19, à se promouvoir. Avec les conseils d'Ahmad Dhani en tant que producteur, Reza sortit son premier album intitulé Kajaiban en 1997. L'un des singles phares de cet album s'intitulait Pertama. Cette chanson a réussi à occuper le numéro 1 dans les charts musicaux en Indonésie et c'est devenu un succès phénoménal depuis sa première apparition. C'est C'est l'album qui a immédiatement conduit Reza à remporter de nouveaux prix et a catapulté son nom dans l'industrie musicale indonésienne. Pertama décrit le sentiment de bonheur d'une personne lorsqu'elle fait l'expérience pour la première fois de la beauté de tomber amoureux. Bonjour, je t'ai voici la chanson intitulée Pertama, chantée par Reza Artamevia. Bonne écoute.
Hari-hariku pertama diriku pun tergoda hilang.
chère Jolita, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
From Jakarta, Indonesia, here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voinews.id and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From Indonesia to the world.
Listener, here's the news. First, the headlines. Legislators support equitable fiscal policy for the people. Be opened by Minister Sri Mulyani.